Ma petite Jacqueline, je sais que nous vivons à une époque où plus rien n'étonne les enfants de ton âge, pourtant, en dépit des réalisations modernes les plus extraordinaires, je demeure persuadée qu'ils trouvent beaucoup d'attrait aux étranges et belles légendes des temps anciens.
Oh, ça c'est vrai, Pierre. Mais pourquoi me dis-tu ça?
Eh bien, je te dis ça parce que l'homme dont je veux t'entretenir a précisément puisé la plus large part de son inspiration dans la légende et la mythologie.
Ah? Mais alors, c'est pas un musicien, c'est un écrivain.
Il fut les deux, car il écrivit lui-même les poèmes, ce qu'on appelle les livrets des opéras, dont il composa ensuite les partitions. Ce musicien, c'est Richard Wagner.
Ah, oh, Richard Wagner!
Ah, je vois avec satisfaction que son nom ne t'est pas inconnu. Mais ce n'est tout de même pas suffisant. Aussi, je t'invite à voyager au pays des légendes, afin d'y rencontrer l'œuvre de Richard Wagner. Vois-tu, Jacqueline, c'est une œuvre gigantesque, qui occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de la musique.
Mais alors, je pense que Richard Wagner a été un enfant prodige, comme Mozart.
Oh, pas du tout. Cela tient sans doute au milieu familial dans lequel il fut élevé. Et tu vas comprendre pourquoi. Richard Wagner, né le 13 mai 1813 à Leipzig, en Allemagne, n'avait que 6 mois lorsqu'il perdit son père. Il grandit au sein d'une famille où seul le théâtre comptait. Son père adoptif et les enfants eux-mêmes, ils étaient nombreux, tu sais, ils étaient 7, organisaient à domicile des représentations. Et lorsqu'il fut plus grand, Richard se construisit un théâtre de marionnettes, sculpta diverses poupées et s'efforça d'écrire un grand drame moyenâgeux destiné à être joué par toutes ces marionnettes.
Et il ne pensait pas du tout à la musique?
Non. Non, ce n'est qu'en 1828 que la passion de la musique le frappa comme un coup de foudre en entendant les symphonies de Beethoven. Pour Richard Wagner, c'est la révélation de lui-même et de son destin. Il découvre la musique pure, très différente de la musique de théâtre à la mode en ce temps-là.
Et c'est ce qu'il décide, comme ça, brusquement, à devenir lui aussi un grand musicien.
Exactement. Pour y parvenir, il va travailler avec une ardeur incroyable, sous la direction de son maître, Weinling. En 6 mois, il étudie le violon, l'harmonie, le contrepoint. Il désirait ardemment la gloire et la fortune. Il sentait bouillonner en lui une intense puissance créatrice. Et l'on est en droit de penser que Richard n'obéissait pas à ce qu'on appelle une vocation irrésistible, mais à une volonté délibérée de se servir de la musique pour exprimer son génie. Seulement, il n'avait pas encore trouvé la formule lui permettant de l'exprimer.
Et il a mis longtemps à la trouver, cette formule?
Eh bien, vois-tu, Jacqueline, plusieurs années. Et avant qu'elle s'impose à lui, il écrit un nouvel opéra, Rienzi, qui est d'ailleurs joué avec succès à Dresde en 1842. Il s'agit là d'un grand drame lyrique au goût de l'époque, mettant en scène un personnage historique, Colla di Rienzi. Dans cette œuvre, Richard Wagner a cherché manifestement à satisfaire les habitudes du public, tout en commençant à appliquer ses propres conceptions.
Quelles conceptions?
Eh bien, Richard Wagner ambitionnait tout simplement de balayer toutes les traditions, de faire passer un souffle nouveau dans l'opéra. Il voulait rompre avec la forme classique, ce qu'il appelait les grandes machines avec défilés et ballets. Richard Wagner sentait qu'il fallait à l'opéra, tel que lui le concevait, un thème dramatique puissant grâce auquel le poème, la musique et même les décors se fondaient en un tout étroitement uni pour provoquer la plus haute émotion artistique. Tu comprends, Jacqueline ?
Oh oui, très bien.
Mais il lui restait encore à trouver la formule idéale correspondant à son tempérament. Cette formule, il en aura la révélation au cours d'un voyage maritime qu'il fit lorsqu'il vint de Riga à Paris, en 1839. Voyage mouvementé, puisqu'il fut marqué par un naufrage sur les côtes de Norvège, mais qui allait marquer une étape importante dans l'œuvre wagnérienne en donnant naissance au vaisseau fantôme. Tiens, écoute. Richard Wagner eut l'idée du vaisseau fantôme en entendant, pendant que sévissait la tempête, des marins évoquer la fameuse légende du Hollandais volant. Brusquement, il découvrait une nouvelle source d'inspiration. C'est désormais dans la légende qu'il rechercherait les sujets à la hauteur de son génie musical. Et comme il s'essayait à le faire étant enfant avec son théâtre de marionnettes, il fera tout lui-même. Il inventera l'action, imaginera les épisodes, écrira le poème sur lequel il composera la musique, souvent les deux ensemble. Il concevra même les effets scéniques et les décors. Richard Wagner va maintenant et totalement affirmer sa propre personnalité.
Cette légende du Hollandais volant, tu voudrais pas me la raconter ?
Mais si, Jacqueline. Et je vais te la raconter telle que l'a transposée Wagner. Écoute. Le Hollandais, condamné à errer sur les océans éternellement pour avoir osé défier Dieu, ne sera délivré de sa malédiction que s'il rencontre une femme capable de lui être fidèle jusqu'à la mort. Ayant débarqué en Norvège, il croit avoir trouvé cette compagne en la personne de la jeune Senta. Mais une méprise lui en fait croire qu'il était trahi, le Hollandais regagne son bateau et lève l'ancre. Senta, pour lui prouver sa fidélité, se jette à l'eau. Alors le navire sombre, et l'on voit s'élever au-dessus des flots les images du Hollandais et de Senta, à jamais réunis. Cette histoire dramatique inspira à Richard Wagner une admirable partition. Écoute encore le vaisseau fantôme.
que c'est beau. Je suis sûre que ça a eu beaucoup de succès.
Non, pas du tout. La représentation du vaisseau fantôme le 2 janvier 1843 fut un échec. Ni le public, ni les critiques, et moins encore les autres musiciens, ne voulaient accepter l'espèce de révolution que Wagner tentait dans l'opéra. Et cette rupture totale avec la mode de son temps, avant de faire sa gloire, allait lui fermer les portes des grands théâtres européens. Cependant, ayant trouvé sa voie, Richard Wagner poursuivait son œuvre. Dans un livre, il a découvert des poèmes populaires tirés de légendes du Moyen-Âge. Il va s'en inspirer pour composer d'abord Tannhäuser.
C'est une belle histoire.
Eh bien, tu vas en juger toi-même. Cette légende raconte que Tannhäuser, après avoir mené une vie dissolue, se rendit à Rome avec des pèlerins pour implorer du pape Urbain IV l'absolution de ses péchés. Mais le pape se montra impitoyable. Il déclara que Tannhäuser ne pouvait pas plus être absous, qu'on ne pourrait voir pousser des feuilles vertes sur le bâton qu'il tenait à la main. Tannhäuser s'en fut désespéré. Mais quelques jours plus tard, le bâton se couvrit de pousses nouvelles.
Je la trouve très jolie, cette légende de Tannhäuser.
Eh bien, tu vois, Jacqueline, lorsque Tannhäuser fut créé au Grand Théâtre de Dresde, il connut à son tour l'échec. Et pourtant, cette œuvre renferme des pages magnifiques. Tiens, celle-ci. En dépit de l'insuccès qu'il rencontre, de l'incompréhension qui l'entoure, Richard Wagner n'abandonne pas la lutte. Il écrit et compose Lohengrin. Et cette fois, il n'obtiendra même pas l'autorisation de faire jouer cet opéra.
Mais moi, je t'autorise à me la raconter, cette légende.
Bien. Lohengrin est un chevalier du Graal qui prend la défense d'Elsa de Brabant, accusée d'avoir tué son frère. Elsa pourra se lier au chevalier à la condition de ne jamais chercher à connaître son origine. Mais Elsa, trop curieuse, pousse Lohengrin à révéler son secret et le chevalier doit s'éloigner d'elle pour toujours. Mais le génie de Richard Wagner tarde à être récompensé. Et ce n'est qu'en 1864, il a donc 51 ans, que prendra fin sa misère et que la gloire lui sourira. Cette année-là, le jeune roi Louis II de Bavière lui apporte son appui. Il l'installe à Munich, fait jouer ses œuvres, consacre enfin son talent. Le domaine de la légende continue de fournir à Richard Wagner le moyen d'exprimer son tempérament créateur, riche et puissant. Après Tannhauser et Lohengrin, c'est encore d'une légende moyenâgeuse qu'il s'inspire pour composer Tristan et Iseult.
Oh, raconte!
Tristan est chargé de ramener Iseult d'Irlande en Cornouailles, où la princesse doit épouser le roi Marc. Mais c'est Tristan qu'elle aime en secret. Être livrée au roi par Tristan lui paraît une trahison. Alors, elle décide de faire mourir Tristan et de périr avec lui. Elle ordonne donc à une servante de remplir une coupe de poison. Elle fait boire Tristan et boit à son tour. Mais la servante, au lieu de poison, avait mis dans la coupe un filtre d'amour.
Alors Tristan devient amoureux de la belle princesse et tout s'arrange.
Ah non, 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 car Iseult est obligée d'épouser le roi Marc. Et cela se termine par la mort de Tristan et Iseult. Écoute, Jacqueline, écoute, exprimée par Wagner, la fin tragique de la belle princesse.